témoin de la semaine, c'est Maud Bréjon qui est avec nous. Maud Bréjon de... Alors, on dit quoi, La République En Marche, Ensemble, Renaissance, on dit quoi?
Renaissance.
Renaissance, ouais. D'accord.
Porte-parole de Renaissance. On est à deux jours du premier tour. Le président Macron, on a l'impression qu'il s'est réveillé cette semaine. Il a fait plusieurs déplacements de campagne. Il a payé hier la mobilisation de ses électeurs. Il veut une majorité franche pour pouvoir appliquer son programme. C'est normal. Mais pourquoi ce réveil tardif? Parce que tout d'un coup, il y a le feu. Il y a le feu parce que la NUP progresse.
Chaque chose a sa place. Le président, il travaille pour le pays. Les 10 et 24 avril dernier, les Français, ils ont choisi un capitaine, Emmanuel Macron. Il a fallu ensuite constituer l'équipe. Ça a été la nomination du gouvernement, les investitures pour les législatives, la préparation du premier projet de loi pour le pouvoir d'achat. Et puis en parallèle, on a 577 candidats de la majorité présidentielle qui font campagne dans leur territoire. Maintenant, bien sûr qu'on est adossé à la dynamique du président de la République. Et donc, c'était, je crois, une fois ces différentes étapes passées, celles que je viens de rappeler sur le gouvernement, les investitures et le pouvoir d'achat, normal et attendu d'avoir un
c'était
peu de...
C'était pas trop tard.
D'avoir de la visibilité, l'interview qu'il a fait chez vos confrères du Parisien le week-end dernier, le fait qu'il était hier en déplacement sur la sécurité, tout ça rappelle en fait ce qu'est le programme que les Français ont choisi. Hier, quand il est dans le Tarn et qu'il rappelle que, issu du Beauvau de la sécurité, on a cette volonté de doubler le nombre de forces de l'ordre présentes sur le terrain, c'était précisément un engagement qu'on a expliqué depuis plusieurs mois. Donc, pas de surprise, mais effectivement, un président qui est au contact des Français, il l'a toujours été.
C'est la fameuse loi de programmation du ministère de l'Intérieur, donc elle va aller au bout évidemment avec de gros moyens, mais est-ce qu'il s'y tiendra Emmanuel Macron? Parce que c'est important d'abord pour la police nationale, moi j'en suis issu et la police attend beaucoup sur ces sujets-là, mais est-ce que la sécurité va être un élément essentiel de votre campagne même en tant que candidat aux législatives, et est-ce qu'il va aller au bout évidemment de cette...
Est-ce que la sécurité est une priorité du gouvernement depuis 5 ans? La réponse est oui. Qui a augmenté de 10 000 le nombre de forces de l'ordre? Qui a renouvelé leurs moyens comme ça n'avait pas été fait depuis des années? C'est bien nous. Maintenant, il faut aller encore plus loin, effectivement, et réfléchir à l'organisation structurelle du travail des policiers et des gendarmes, dont je rappelle qu'ils ont une activité extrêmement...
Une
mission
que la police
extrêmement, extrêmement difficile. Donc, on va revoir les modes de travail de façon à permettre de doubler la présence, le temps utile à la sécurité, si je puis dire, sur la voie publique, de façon à ce qu'on ait encore plus de bleus dans les rues.
Oui, mais alors justement, c'est intéressant parce que j'ai entendu M. Macron expliquer plus, il y aura plus de numérique parce que c'est grâce à l'administration qui passera sur le numérique, ça permettra de mettre les gens sur le terrain. Alors je vais vous donner mon expérience en tant qu'enseignante. Lorsque j'ai commencé à l'éducation nationale, on n'avait pas encore cette masse informatique qui gérait notre administration. On faisait encore beaucoup de tâches, vous savez, on remplissait les bulletins à la main, etc. Puis un jour est arrivé, au début des années 2000, on nous a dit, maintenant l'informatique, le numérique, vous allez voir, vous allez tout faire sur numérique, ça va beaucoup alléger les tâches et vous pourrez être encore plus sur vos activités. On n'a jamais été autant débordé par les tâches administratives en tant que prof qui nous incombaient grâce au numérique parce qu'on nous disait, oui, mais ça va plus vite si tu le fais toi-même sur le numérique. Donc, excusez-moi, je vais vous dire, le numérique, c'est absolument pas la solution pour mettre plus de gens sur le terrain. Au contraire, les tâches administratives sur informatique, c'est ce qui bouffe une grande partie du temps des agents. Donc, venir nous expliquer que c'est le numérique et l'informatique qui va libérer du temps d'action et du temps de terrain, c'est ne rien comprendre à la vie du petit fonctionnaire de terrain.
L'objectif qui a été annoncé par le président de la République, il est issu du Beauvau de la sécurité. Le Beauvau de la sécurité, ça a regroupé notamment les syndicats de police. Donc en fait, tout ça, ça a été construit avec eux. Et je crois que c'est ce qui fait la force de cette réforme. C'est pas uniquement du numérique pour faire du numérique, c'est comment est-ce qu'on réorganise leur travail au quotidien. Et moi, quand je discute avec des forces de l'ordre, j'ai le sentiment qu'au contraire, ils sont en attente de cette réflexion sur l'organisation de leur travail, de façon à avoir moins de temps dans les bureaux et plus de temps au contact des Français pour la sécurité.
Attendez, on va pas parler que de la police. Mehdi Ghezzar.
Madame la porte-parole, normalement les 100 premiers jours, les 100 premiers jours après l'élection, c'est les 100 premiers jours, on va dire, dans quelque sorte d'apothéose pour un nouveau président, même quand il est réélu.
D'état de grâce.
Merci cher Olivier qui vient de perdre en face avec moi au GG. Je voulais savoir,
je suis pas rendu
le début du second mandat. On est bien d'accord qu'il est chaotique. Entre l'affaire Abad, l'affaire du Stade de France, l'affaire Valls, puisque moi je rigolais. Alors l'affaire Valls, je peux vous assurer, j'avais du popcorn, j'étais devant mon truc, je rigolais. C'était quelque chose. Ah ouais. Vous dégagez Valletta, vous lui dites comme quoi il est plus Stéphane Valletta, comme quoi il est plus, c'est plus lui qui en investi pour La République En Marche. Vous mettez Valls, c'est lui qui investit. Dès que Valls y perd, vous dites ah mais non, mais il n'a jamais été enlevé, Stéphane. Ouais.
Bah, c'est vous réintégrer à l'État. Ouais.
C'est donc les débuts, wow, des débuts chaotiques.
Chaotique. Ça rame quand même. Hein, Madame Bréjean, hein. Ouais.
Je pense que vous avez demandé à Anne Hidalgo de vous prêter quelques canoës et kayaks. Vous faites le tour de la Seine, quoi.
Oula. J'entends que les quelques événements qui sont des événements et pas plus que ça, ça ne reflète pas ce qu'est la réalité de la France aujourd'hui.
Bien sûr, de France, ça reflète pas la situation de la France.
Non, je ne pense pas.
Ah bon?
D'une part,
Barbara,
est-ce qu'on peut attendre deux secondes avant de m'agresser?
Allez-y.
Il y a eu un focus médiatique indéniable sur ces événements-là. Mais quand vous faites campagne, et c'est une candidate aux législatives qui vous le dit, qu'est-ce que vous entendez sur le terrain? Vous entendez parler de pouvoir d'achat, vous entendez parler d'écologie, notamment de la part des jeunes, les retraités vous parlent de leur niveau de vie, de sécurité, indéniablement.
Moi, je n'ai pas. Je n'ai pas entendu parler
de Damien Abad. J'ai peu entendu parler du Stade de France. En proportion, on me parle mille fois plus de pouvoir d'achat. Et là, on a des réponses concrètes parce que ce sera le premier projet de loi qu'on votera si les Français nous donnent une majorité, ce que j'espère. Mais encore une fois, la réalité du terrain et la réalité des plateaux télé, c'est pas toujours la même chose.
Je peux vous poser une question sur justement ces mesures qui vont être annoncés, qui ont déjà été annoncés pour la plupart concernant le pouvoir d'achat, notamment cette nouvelle aide. Alors, on ne sait pas vraiment quel sera le montant en septembre. Je ne sais pas si vous avez précision. C'est sur pour les familles modestes. Il y a la ristourne sur l'essence qui est prolongée jusqu'à la fin de l'été. Tout ça, c'est beaucoup d'argent. Comment on finance? Quelle est la compensation financière?
Mais il y a là une urgence et le président de la République l'a montré. Non mais le président de la République l'a montré. Je voudrais le rappeler. Sa première mission, c'est de protéger les Français.
Oui.
Donc face à des situations d'urgence, comme on a pu connaître pendant la crise sanitaire, comme on peut connaître quand l'énergie augmente, comme on connaît là avec l'inflation, on se doit d'y répondre.
D'accord.
Après, bien sûr qu'il y a une réflexion à long terme.
Ce sont plusieurs milliards.
Un travail à long terme de rigueur au sens positif du terme sur comment est-ce qu'on gère les finances publiques. Par exemple, faire la réforme des retraites, on pourrait en parler. Nous, on assume d'avoir une réforme de responsabilité.
C'est ça qui va financer les
retraites. C'est que ça va éponger les milliards et les centaines de milliards de dettes de M.
Macron. Non, mais c'est intéressant. C'est-à-dire que la réforme des retraites, c'est pour éponger les chèques inflation.
Non, ce que je vous dis, c'est que d'un côté, il y a un soutien massif au pouvoir d'achat et qu'en parallèle, effectivement, il y a d'une part des réformes nécessaires pour le pays et il y a d'autre part des investissements. Quand on investit dans des technologies du futur, quand on permet à la France de se réindustrialiser, mais qu'est-ce qu'on fait? On crée de l'emploi, on crée de la richesse, on crée de la croissance.
Il y aura un budget à faire en septembre. Il va falloir quand même trouver de l'argent pour financer toutes vos dépenses supplémentaires dans un contexte où de croissance en baisse. C'est ce que disent tous les économistes.
Il y aura à peu près la même chose que Jean-Luc Mélenchon.
Par exemple, Bruno Le Maire nous dit
ça, c'est
jamais,
complètement faux,
quand il vient de nous annoncer une nouvelle aide ou Madame Borne, il nous dit jamais comment il la finance. C'est le quoi qu'il en coûte qui continue.
Il y a un quoi qu'il en coûte, en tout cas, qui doit être adapté.
Le quoi qu'il en coûte continue.
À ce qu'on connaît. Alors, c'est évidemment pas le quoi qu'il en coûte qu'on a connu pendant la crise. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez dire aux gens à qui vous parlez dans la rue, quand l'inflation augmente et qu'elle est à 5%, quand,
je crois que les Français
le gasoil ou l'essence peut dépasser les 2 euros le litre. Est-ce qu'on les laisse? Et donc, ils sont dans l'incapacité de boucler leur fin de mois. Et donc, c'est quoi? C'est l'alimentation des enfants, par exemple, qui en pâtit. Il faut accompagner ce contexte qui est ponctuel, aider les Français dans cette situation-là. Et en parallèle, il y a un travail de long terme. Quand on vise, par exemple, le plein emploi, le taux de chômage est au plus bas depuis 15 ans, le taux de chômage des jeunes est au plus bas depuis 40 ans.
Non,
c'est un vrai levier de long terme pour le pouvoir d'achat, permettre à chacun d'avoir un travail. Et puis en parallèle, permettre au travail de payer mieux. Quand on triple, par exemple, la prime d'activité, on permet au travail de payer mieux. Donc c'est la vision sur le long terme. Et bien sûr que face à des crises ponctuelles extrêmement importantes, la mission du président de la République, c'est de protéger les Français.
Vous pensez que l'inflation va s'arrêter rapidement? Ce que vous dites, c'est ponctuel. L'inflation va s'arrêter rapidement?
Écoutez, j'ai pas de boule de cristal. J'entendais ce que disait par exemple Bruno Le Maire qui.
Il dit 2023.
Bon espoir.
Ça fait déjà quand même.
On sera en soutien du pouvoir d'achat tant que nécessaire. Et maintenant, je voudrais rebondir sur une chose. Quand vous dites votre programme et celui de Jean-Luc Mélenchon en termes de dépenses, c'est la même chose. La retraite à 60 ans, au regard de ce qu'on propose comme réforme des retraites, je suis désolée, c'est pas du tout la même chose. Et si je peux en dire un mot, la réforme des retraites à 60 ans voulue par Jean-Luc Mélenchon, il a pas le quart du dixième du budget pour la financer. Donc, on a déjà essayé ce type de réforme partout où le programme de Jean-Luc Mélenchon a été mis en œuvre. On sait comment ça s'est terminé.
C'est-à-dire par où? Exemple?
Pour la question des retraites, sans avoir les moyens de la financer, vous avez deux options. Hein. Soit c'est les cotisations de ceux qui travaillent qui augmentent, donc c'est une baisse de pouvoir d'achat. Soit c'est les pensions de retraite qui diminuent, donc c'est aussi
non,
une
quand
baisse.
Vous dites partout,
donc c'est
on
aussi
a mis en
une baisse de pouvoir d'achat.
De Mélenchon,
bien sûr,
ça a échoué où?
Mais regardez en Grèce, regardez au Venezuela, regardez en Argentine.
En Grèce, c'est plutôt l'Union européenne et la politique de l'Union européenne qui a tué l'économie grecque. Excusez-moi.
Parce qu'ils ont...
C'est la façon dont on a étouffé, ils ont dépensé
l'argent qu'ils n'avaient pas. Résultat, à la fin, le SMIC a diminué de
50%. C'est l'Union européenne qui a tué.
Et les pensions de retraite ont diminué de 30%. Est-ce que c'est ce destin-là qu'on veut pour la France? Et c'est vraiment le message que je voudrais faire passer. Dimanche, les Français n'ont pas le choix entre deux nuances politiques. C'est deux destins fondamentalement différents pour la France. On a parlé des questions de pouvoir d'achat, on pourrait parler des questions de liberté, parce que c'est des restrictions de liberté, Jean-Luc Mélenchon, et on pourrait parler des questions de sécurité quand on voit, quand on entend les propos de Jean-Luc Mélenchon à l'égard de la police, quand on l'entend s'engager sur l'abrogation de la loi de lutte contre le séparatisme si jamais il avait la majorité à l'Assemblée nationale. Jean-Luc Mélenchon, c'est moins de pouvoir d'achat, c'est moins de liberté, et permettez-moi, c'est le bordel dans la rue en prime.
C'est quoi moins de liberté? Pourquoi moins de liberté?
Regardez son programme, c'est des interdictions.
Va. Je ne sais pas quoi.
Je vais vous donner un exemple.
Concernant les libertés publiques, je pense que la Macronie, sur les années qui viennent de passer, n'ont aucune leçon à nous donner, parce que boire un café debout, marcher sur les places dynamiques et compagnie,
pas de ça dont
vous n'avez pas de leçon à nous donner sur les libertés publiques et la façon dont l'Assemblée nationale
Vous faites référence à une crise sanitaire sans précédent. Moi, je vous parle de mesures sur le long terme. Prenez par exemple la façon dont Jean-Luc Mélenchon, la façon dont il a d'aborder les questions d'écologie. Moi, je pense que l'écologie, ça doit être accompagné, et ça ne se fait pas sans l'adhésion de la majorité de la population.
Est-ce que vous êtes favorable?
Quand Jean-Luc Mélenchon propose d'abaisser, par exemple, la vitesse sur l'ensemble des routes de France, il me semble que les derniers qui ont essayé, ça n'a pas forcément été facile.
Et je pense que justement,
ça doit s'accompagner.
Mais c'est vous qui l'avez fait.
Ah ben, vous avez fait les 80 km quand même.
Et on est revenu dessus.
Non.
Ah non, vous êtes pas revenu dessus.
On a permis de choisir.
Le choix.
Et
Mme Borne était pour les 110 km/h. Elle l'avait dit à la cyber-convention.
Regardez le programme de Jean-Luc Mélenchon, notamment sur les questions d'écologie, recohabitation forcée, par exemple, c'est extrêmement contraignant.
Sur l'écologie, est-ce que vous êtes favorable à l'interdiction des moteurs thermiques d'ici 2035?
Attention, pour l'instant, je vous ai laissé tranquille.
Allez-y, il reste 50 secondes.
Si je peux me permettre, c'est les moteurs thermiques neufs. C'est extrêmement important. Il faut être très clair. Aujourd'hui, si le climat, c'est notre priorité, il faut sortir des énergies fossiles. Donc, comment on le fait? D'une part, on accompagne chacun pour permettre aux gens plus facilement d'avoir des voitures qui sont plus propres. Et ensuite, effectivement, là, on va interdire la vente de moteurs thermiques pour le neuf. Et moi, je pense,
cette directive.
Oui, je suis d'accord. Pour ma part, à titre personnel, j'y suis favorable.
D'accord.
Le marché de l'occasion sera encore ouvert. Mais je crois que face au défi immense et à l'urgence climatique.
Comment les familles modestes vont pouvoir faire?
On accompagne justement. Les familles modestes, excusez-moi. On n'interdit pas.
Elisabeth Borne, quand Elisabeth Borne va voter dans sa circonscription, elle va pas faire comme Jean Castex pour les présidentielles. Elle va pas prendre un Falcon pour aller glisser son butin.
On n'interdit pas la vente de neuf. Vous savez très bien que les familles les plus précaires, elles n'achètent pas des voitures neuves. Elles achètent des voitures d'occasion pour beaucoup. Enfin, je veux dire, c'est ça la réalité.
Vous savez que vous dites tout le temps.
C'est fini. Merci Maud Bréjean, c'est terminé. Merci Barbara Lefèvre, Mehdi Ghezard. C'est fini. Merci Mehdi Ghezard, Barbara Lefèvre et Bruno Pomard.